se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Bonjour à tous, bienvenue dans Estelle Midi, comme tous les jours, c'est de midi à 15h, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Nous sommes ravis de vous retrouver, ravis également de retrouver Paul Lassen, journaliste RMC. Salut Paul.
Salut Rémi, bonjour à tous.
Paul qui est là pour tout nous expliquer, pour qu'ensuite on puisse tous débattre ensemble. Vous connaissez le principe, vous nous appelez au 3216. À côté de Paul, il y a Loumire Lapré, militante écologiste. Salut Loumire.
Salut Rémi, bonjour à toutes et à tous.
Laurent Dandrieux est là également, rédacteur en chef culture à Valeurs Actuelles. Salut Laurent.
Salut Rémi, bonjour à tous.
Et Juliette Briens, journaliste à l'Incorrect. Bonjour Juliette.
Salut Rémi et bonjour à tous.
Dans un instant, l'explosion des prix des billets SNCF. Est-ce que c'est scandaleux? Vous nous appelez au 3216, la SNCF dit que non, les billets n'ont pas augmenté. Mais enfin, il suffit d'aller regarder sur les sites de réservation et de voir le témoignage d'un certain nombre de voyageurs. D'ailleurs, vous en faites peut-être partie, vous nous appelez au 3216 pour voir que ça se discute. À 12h30, on va parler de l'éolien en France. Bah, des éoliennes, oui, parce que en Provence, Alpes-Côte d'Azur, pardon. Non, c'est même pas. Si, c'est ça.
Vincent Ronald.
Pardon, c'est la région de Laurent Wauquiez.
C'est Lolo.
La région de Laurent Wauquiez, ben, la région a dit, Laurent Wauquiez a dit stop, l'éolien, c'est terminé, on ne financera plus. Est-ce qu'il faut faire partout en France? À 13h, pour 52% des Français, nous ne sommes pas prêts à accueillir les JO. Ah, ça tombe mal parce que c'est dans 118 jours la cérémonie d'ouverture, donc ça va faire court. D'accord, pas d'accord. À 13h30, le meilleur du jour sur RMC, le zapping. À 14h, on va se faire plaisir. On va se faire plaisir parce que je sais que c'est un sujet compliqué, celui des faits divers. C'est douloureux. Malgré tout, ça passionne. Ça passionne les Français. Les affaires Émile Lina, l'affaire Grégory, évidemment, d'autres. Notre fascination pour les faits divers, justement. Est-ce qu'elle est malsaine? Le grand, je dis le grand parce que moi je l'adore, Dominique Rizeko, présentateur de Faites Entrer l'Accusé sur Story, sera avec nous. Vous pourrez dialoguer avec lui au 32-16. Ça sera donc à partir de 14h. À 14h40, les immanquables, les infos qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui. Et puis attention.
C'est le grand jour, Rémi.
C'est le grand jour pour le coffre RMC.
Oui, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour tenter de gagner le coffre RMC. Nous pouvons vous offrir jusqu'à 50 000 euros. Alors, dès que vous entendez cette alerte, vous avez 5 minutes pour jouer, vous inscrire en envoyant coffre au 7-32-16. Si vous êtes sélectionné, vous ouvrirez ou pas le coffre aujourd'hui même à 14h40. On vous donne rendez-vous. Vous pouvez y repartir avec la somme de 2500 euros ou oser ouvrir le coffre RMC. Si vous osez, vous gagnez alors soit une semaine de vacances dans un des campings Tikayan en France pour 6 personnes, soit donc la somme de 50 000 euros. Pour jouer, vous envoyez coffre au 7-32-16, coffre au 7-32-16. À vous de jouer, à vous de gagner.
RMC Estelle Midi.
C'est la facture du jour, lourde facture si vous avez l'intention de prendre le train cet été et si vous n'avez pas encore réservé. En vente depuis le 13 mars dernier, les billets SNCF pour cet été, Paul, ont déjà vu leur prix exploser.
Oui, déjà Rémi, on n'a jamais autant réservé de trains pour les vacances d'été, tu l'as dit, on ne les a jamais payés aussi cher. Le nombre de réservations pour la période estivale a doublé par rapport à l'an dernier, avec comme conséquence directe l'augmentation des prix au fur et à mesure que progressent ces réservations. Alors pourquoi ça augmente plus les clients réservent? Eh bien tout ça c'est à cause du yield management ou gestion flexible des prix. C'est ce qui est pratiqué par la SNCF. En quelque sorte, cette méthode elle ajuste les tarifs en fonction de la demande et de la disponibilité des places. Et donc ça conduit à des augmentations plus les trains se remplissent. Je vais vous donner quelques exemples. Un billet Paris-Arcachon pouvait passer de 69 à 132 euros en une même semaine. Certains trajets, comme de Paris vers Marseille, vers Toulouse ou vers Bordeaux, ont pu prendre 20 à 30%. Lyon. Exemple, pour le week-end du 14 juillet, là-haut, c'est à 20% entre 2023 et 2024, 115 euros en moyenne, contre 94 euros il y a un an. En Normandie, Rémi, là-haut se fait aussi sentir également. Pas seulement sur les TGV, puisque la région vient de voter une hausse des prix des billets de train régionaux de 2,5%.
Explosion des prix SNCF, est-ce que c'est scandaleux? Vous nous appelez au 3216, que vous ayez déjà ou pas réservé vos billets pour cet été, ou que vous soyez usager quotidien de la SNCF. Il y a pas mal de travailleurs qui prennent tous les jours. On vient de parler de la région Normandie avec le TER. Vous nous appelez donc au 3216. Lumière, toi tu prends régulièrement le train.
Oui, tout à l'heure.
Est-ce que les tarifs pratiqués par la SNCF, tu les juges scandaleux?
Oui, c'est un vrai problème. Là, par exemple, je rentre chez moi ce week-end, je reviens dans l'Ain, 296 euros.
Pour faire Paris?
Pour faire Paris-Lyon, Lyon-Amberieu-Bugey, deux fois, donc maintenant et lundi soir pour rentrer.
Donc en aller-retour, 246 euros?
96
euros. 296
euros,
deuxième classe? Pour toi toute seule?
Oui. Non, c'est lunaire. Nous, on dit depuis des dizaines d'années que le train, le rail, c'est l'avenir de la mobilité écolo. Je rappelle quand même que le train, ça pollue 50 fois moins que l'avion pour une même distance. Donc, c'est vraiment significatif le rôle et le poids que le train peut prendre dans notre transition écologique. Là où le gouvernement fait n'importe quoi, une fois n'est pas coutume, c'est qu'il demande à la SNCF de participer aux 100 milliards qui sont prévus pour moderniser le train, alors même que la SNCF n'a pas ce budget. Donc il y a un vrai enjeu devant nous qui est, il faut moderniser les rails, il faut investir pour trouver d'autres des rails plus performants, etc. Et pour redoter la France, notamment la France rurale et périurbaine, qui a été complètement sous-dotée parce que tous les moyens ont été mis sur le TGV. Et moi, je suis contente que les classes moyennes et supérieures puissent prendre le TGV pour aller passer un week-end à Bordeaux. Mais enfin, quand on habite en France, franchement, déjà ça. Et donc, du coup, ça exclut tout un pan de la population française.
Pour aller dans le sens de ce que tu dis, Loumire, tu n'as pas de carte d'abonnement, t'as pas de réduction. Là, tu payes plein pot.
Si, j'ai une carte avantage.
En plus.
Oui. Ah non, mais c'est le week-end de Pâques.
Clairement, tu
je m'y suis prise il y a deux jours. Faut que je dise.
Bon, soit. Mais tu serais parti à deux. Il n'y avait pas photo, c'était la voiture. Parce que
moi, par conviction, je prends le train.
Oui,
et
mais
que je peux me permettre.
Tu peux te permettre, mais clairement, à partir du moment où on est seul, on se dit bon, 300 euros de façon.
Pour mais quand t'as une famille.
Paris, l'Ain, bon.
Oui, c'est loin, parce que la voiture.
Voiture ça serait,
non, bon, c'est voilà. 6 heures.
Mais tu te dis, à partir du moment où on est plus de. Hein, c'est-à-dire à partir du moment où on est deux, il est clairement, c'est évident qu'il est plus rentable d'y aller en voiture.
Ah mais c'est lunaire, tu vois, par exemple, je suis allée à Rome en vacances en décembre avec mon conjoint, on pouvait soit payer 50 euros pour deux, hein, pour faire Paris-Rome en avion, soit payer 600 euros pour faire 10 heures de train. Bon, c'est ce qu'on a fait, du coup, parce que pour nous c'était important, mais tout le monde ne peut pas se le permettre et qu'on part en vacances une fois par an, donc bon. Voilà, mais c'est un vrai sujet. Et avant qu'on me dise l'argent, il n'y en a pas. L'argent, il y en a. 100 milliards d'euros, c'est ce qu'il faut pour moderniser le train. C'est le montant des niches fiscales en France, par exemple.
Ah, ça, c'est, il fallait qu'on passe par.
Eh ben, il fallait quand même le dire.
Juliette, est-ce que c'est scandaleux?
C'est scandaleux. Le yield management, évidemment, c'est une technique très efficace utilisée par beaucoup de secteurs privés.
Yield management, c'est les prix flexibles, c'est ce qu'on a dit.
C'est les prix flexibles. En fonction de la demande.
Voilà, plus le train se remplit, plus les billets sont chers.
C'est une technique qui est très efficace, qui est utilisée par exemple beaucoup dans le monde de l'hôtellerie. Le problème, c'est que la SNCF, ils sont en quasi monopole puisque on a bien qu'un seul rail, hein, donc ils sont en quasi monopole en France et que l'État est actionnaire à 50%. Donc nous, on veut bien toujours payer plus. Parce que c'est ce qu'on fait en France, on fait toujours. Nous, on est des vaches à lait, en fait. On est des vaches à lait, on est toujours là pour payer. Et nos services, les services qu'on nous donne en retour, ils sont de moins en moins qualitatifs ou ils sont de plus en plus chers. Donc, en fait, oui, c'est scandaleux et les prix sont exorbitants, à moins d'avoir la chance et la flexibilité de partir quand les gens ne partent pas. Comme moi, c'est ce que je fais. Par exemple, là, en mai, je pars pour le mariage de mon frère. J'ai la possibilité, le luxe de pouvoir partir plutôt un mercredi plutôt que le vendredi soir. Évidemment, là, par contre, le prix du billet est dérisoire. Parce que c'est le yield management qui veut ça. Donc, effectivement, c'est très compliqué, en fait, d'avoir une boîte en monopole sur le rail français qui appartient à plus de 50% à l'État, qui utilise les mêmes techniques commerciales que des secteurs privés ultra concurrentiels.
Laurent Dandrieux.
Oui, c'est vrai que ça me paraît complètement incohérent. C'est incohérent parce que c'est vrai qu'à un moment où on multiplie les dispositifs d'aide au pouvoir d'achat des Français, laisser la SNCF, qui par ailleurs n'est pas dans une situation drastique puisqu'ils ont quand même fait 1,3 milliard de profit en 2023
SNCF Voyageurs.
Et 2,4 milliards en 2022, donc ça va à peu près. Donc leur laisser pratiquer les prix qu'ils veulent sur les TGV, ça me paraît assez incohérent. Et puis c'est vrai que on a l'impression que le slogan de la SNCF, c'est devenu, c'est à nous de vous faire préférer la voiture, parce que même tout seul, moi je fais souvent le calcul, hein, même tout seul, c'est plus rentable souvent d'y aller en voiture, ouais, sur les distances courtes et moyennes, ouais, notamment. Et puis en plus, il y a le scandale aussi, c'est que c'est de plus en plus cher pour un service dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas de plus en plus fiable. Entre les grèves, entre les retards, entre l'impossibilité de se faire rembourser si jamais votre train n'est pas arrivé à destination, ouais, ce qui m'est arrivé.
C'est vrai que les conditions, en plus, les conditions de voyage deviennent, enfin, les conditions de remboursement, par exemple,
ou d'échange
de train deviennent de plus en plus compliquées.
Hein. Le rail est vieillissant.
Je te parle même des conditions d'échange de billets, etc.
Il y a quand même partout des pratiques qui sont des pratiques commerciales, y compris dans la façon dont on traite l'usager, qui d'ailleurs maintenant on appelle le client, sur les questions de remboursement. Et puis c'est vrai que cette histoire de tarifs flexibles, c'est peut-être très bien pour les compagnies aériennes, mais ça me paraît totalement incompatible avec ce service public.
Bah oui, que le train est censé c'est un service demeurer. Public.
Explosion des prix des billets SNCF. Est-ce que c'est scandaleux? Vous nous appelez au 32-16, comme le fait Vincent. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors, vous entendez mal, Vincent. Parlez bien près de votre téléphone.
Là, c'est bien.
Là, c'est très bien. C'est très bien, Vincent. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi. Vous nous appelez d'où, Vincent ?
Herblay.
Herblay, on est en région parisienne. Vous faites quoi dans la vie ?
Bon, je suis à la RATP.
Ah, très bien.
Oui, nul n'est parfait, je sais.
Nul n'est parfait. Vincent, vous prenez régulièrement le train ?
Alors non, je ne prends pas souvent le train puisque j'ai préféré mettre mon argent pas dans les vacances mais dans l'achat de mon bien immobilier.
Ok.
Donc voilà, donc les vacances, je me suis assis dessus pendant pas mal de temps. Mmh. Et quand je vous entends vous plaindre du prix, mais est-ce que vous connaissez au moins le prix d'un train, des employés, de tout ça? Parce que tout le monde se plaint de la qualité des transports.
Ouais.
Personne veut rien payer, mais tout le monde veut bénéficier de plein de choses et que tout marche bien. Et moi, ça me dérange un petit peu parce que je trouve que c'est pas si cher que ça par rapport à d'autres pays. Si on devait payer le prix réel du transport,
c'est vrai.
Mais alors là, je peux vous dire que plus personne va prendre le train. Hein.
Alors pour le TER, je sais que le train express régional, je sais que lorsqu'on prend un TER, on paye 25% du prix réel du trajet. Ça, je sais.
Voilà. Et imaginez-vous la SNCF.
Mais pour le TGV, c'est pas la même chose.
Non.
Hein.
Non, c'est encore plus cher.
Non, 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 pour le TGV, c'est pas la même chose.
Il y a d'autres pays où c'est bien moins cher.
Surtout,
aller en Italie, par exemple, c'est bien moins cher.
Vous avez vu les infrastructures et puis la qualité des transports en Italie?
Ouais,
c'est bien moins cher. Mais Vincent, il a raison.
Vincent, je vais aller dans votre sens.
Allez,
je vais aller dans votre sens. Vous avez certainement raison. C'est vrai qu'on aura rarement conscience du coût réel d'un trajet en train, que ce soit TER ou TGV, etc. Malgré tout, Vincent, c'est factuel, il y a une réalité. Aujourd'hui, pour un certain nombre de Français, se déplacer, traverser la France en train, c'est devenu inabordable. Ça, c'est une réalité, Vincent.
Je vais vous répondre avec franchise.
Oui.
Ça va pas plaire à beaucoup de gens, mais c'est pas grave, je prends le risque.
On est là pour, la devise de l'émission, c'est on n'est pas là pour se mentir. Donc,
on n'est pas là pour se mentir.
Exactement.
Moi, ça me fait un petit peu rire parce que la plupart des gens qui râlent, sont capables de s'acheter des iPhones à 1500 balles ou une autre marque, j'ai dit iPhone ou Samsung à 1300 balles. Par contre, de payer pour le transport, c'est plus possible. Il y a un moment, il y a des choix à faire dans la vie, effectivement. Moi, j'ai décidé, je préfère payer un peu plus cher, mais même payer mes impôts. Vous voyez, je paye mes impôts depuis l'âge de 20 ans.
Bah, ça, c'est bien. Je vous le conseille de les payer.
Mais je suis très content. Je n'en paye pas assez. Parce que quand j'étais malade et que je vais à l'hôpital, je suis bien content qu'on m'a pris en charge à 100%.
Vincent, je suis très heureuse qu'on vous ait pris sur ce plateau parce que je suis souvent la seule à dire tout ça. Donc, merci.
Attention, Lumière, tout à l'heure, tu disais quand même que c'était scandaleux le prix des billets.
Mais parce que moi, je pense que l'État doit mettre la main à la poche en faisant payer les plus riches. Bien évidemment.
Parce que c'est
le principe de l'hôpital. Enfin, c'est un service public, donc c'est normal qu'on ne paye pas à l'hôpital, mais on devrait pouvoir prendre le train plus facilement dans ce pays, et ça coûte cher, et quelqu'un doit mettre la main à la pâte, et c'est l'État, à travers la taxation sur les plus riches.
Oui.
Le problème, c'est que la question n'est pas seulement celle du prix qu'on paye, la question est celle de l'évolution dans le temps, c'est-à-dire qu'on a des prix qui sont de plus en plus élevés pour un service qui est de moins en moins fiable. Et de la même façon, moi je suis effectivement très content de payer mes impôts pour être bien soigné à l'hôpital quand l'hôpital va bien, mais on paye de plus en plus d'impôts pour un hôpital qui va de plus en plus mal.
Donc Vincent, ça vous pouvez entendre ce que dit Laurent?
Alors j'entends parfaitement ce que dit Laurent, puisque moi-même j'ai eu un gros problème de santé, et mon professeur, je lui ai demandé comment je le remercie au bout de 2 mois de réanimation quand je suis sorti. Et il m'a répondu quelque chose qui m'a marqué, j'avais 23 ans. Il m'a dit tout simplement en payant vos impôts, monsieur. En payant vos impôts, c'est comme ça que vous allez nous remercier. Et moi je vais vous dire un truc, oui on paye de plus en plus cher, mais malheureusement c'est parce que la gestion n'est pas bien faite.
Ça, on est d'accord. Moi,
ma maison, si j'avais pas bien fait ma gestion, j'aurais été, on m'aurait saisi ma maison, on m'aurait mis dehors. Mais par contre, nous, on a des politiciens, ils peuvent faire n'importe quelle bêtise. Il n'y a aucun problème.
Et oui, donc à la fin, vous êtes d'accord pour dire qu'on paye trop cher.
Attends, je voudrais faire, Juliette, je vais donner la parole dans un instant. Vincent, restez avec nous parce que je voudrais vous faire parler, dialoguer avec Gaël qui nous appelle également au 32-16. Bonjour Gaël.
Bonjour.
Bienvenue dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous nous appelez depuis Paris, Gaël.
Ah oui, alors oui, je suis directrice d'école à Paris. Et moi, je rentre tous les week-ends en Bretagne.
Ok.
Je suis aidante de ma maman, donc je suis obligée de rentrer tous les week-ends.
D'accord.
Donc je fais le voyage depuis 2012. Hein.
Ok.
Donc il y a 4-5 ans, je payais 85€ en première classe, aller-retour. Parce que moi, je les prends 3 mois à l'avance, je sais que je rentre tous les week-ends, donc... Quand ça ouvre, à 6h du matin, je suis au taquet, je prends mes billets.
Ok. Paris-Lannion, 85€, c'est ça?
Ouais, 85€ en première.
Ouais.
Direct. Le 17h52 le vendredi et le 18h55 le dimanche. Voilà. Je prends toujours le même train. Là, j'ai pris mes billets pour la période, la prochaine période. Je voyage en seconde classe, hein, parce que sinon c'est un rein. Je paye 140 balles.
Wow. Voilà. Allez, quasiment le double.
Quasiment le double, je ne suis pas sur de la première. Alors je me fais un peu plaisir, il y a des fois où je prends à l'aller la première parce que je suis un peu, les allers-retours ça me fatigue un peu,
ouais.
Mais je suis en matière régulière en seconde. Voilà, donc oui, ça commence un peu à m'agacer, et je ne suis pas la seule, parce que dans le Paris-Lannion, on est plusieurs à faire l'aller-retour, le dimanche on se salue, allez, bonne semaine de boulot, et le vendredi on se retrouve.
Vincent, donc, vous entendez ce que dit Gaël, vous pouvez comprendre quand même cette interrogation, le mot est faible de la part d'un certain nombre d'usagers de la SNCF.
Je comprends parfaitement, mais il faut se rendre compte qu'il y a, elle payait les billets, la dame, il y a peut-être 10 ans, un certain montant, mais il y a l'électricité qui a augmenté, parce que ça marche à l'électricité, hein, pour savoir. Il y a l'infrastructure qui est vieillissante, donc il faut payer tout ça. Il y a le personnel aussi, puisque la sécurité, il y a de plus en plus de sécurité, donc il va falloir payer les agents de sécurité. Et tout ça, ça coûte un coût. Et effectivement, moi aussi, j'aimerais vivre dans un monde où tout est gratuit.
Oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas, Vincent, mettre le paquet sur les transports en commun? C'est le sens de l'histoire, tout le monde nous dit ça. Les écologistes et même le gouvernement aujourd'hui.
Mais bien sûr qu'il faut mettre sur la sécurité, sur l'hôpital, sur les transports en commun, mais plus personne. 40% des Français payent des impôts. Je ne sais pas si vous êtes au courant quand même. 40%, plus personne veut payer.
Oui, Gaël.
Alors, moi, je l'arrête tout de suite parce que si je prends mon billet le mercredi, je paye nettement moins cher. Je pense que l'électricité est au même prix le mercredi que le vendredi. Donc oui, c'est agaçant.
Ça, c'est imparable.
C'est leur façon de faire maintenant le yield management, on est bien d'accord. Je suis désolée, c'est un service public. Moi, mon
électricité,
je ne la paye pas plus cher le mercredi que le jeudi, à moins que j'ai le tarif tempo ou...
Argument imparable, Gaël. Merci Vincent, merci Gaël d'avoir été avec nous. On sent la colère de Gaël et elle est représentative d'un certain nombre de clients usagers, on emploie le mot que l'on veut, de la SNCF. Arnaud Aimé nous rejoint. Bonjour Arnaud Aimé.
Bonjour.
Spécialiste transport chez SIA Partners, un cabinet de conseil spécialisé notamment dans le transport en commun. Arnaud Aimé, vous comprenez la colère des usagers de la SNCF?
Là, j'ai l'impression qu'on parle quand même beaucoup du TGV, de la longue distance. Oui, la colère, je la comprends et parfois je peux la partager aussi, notamment quand j'ai plus de place, quand je cherche un TGV pendant l'été. Ça, c'est assez irritant, effectivement. Si on se concentre sur le TGV, puisque là on parle de partir en vacances pendant l'été, pour aller à l'encontre de ce que dit Gaël, objectivement, c'est pas un avis, c'est pas une conviction, c'est pas de la politique, le TGV n'est aujourd'hui pas un service public. C'est-à-dire que ce qu'on appelle un service public, c'est quelque chose qui est payé par le contribuable.
Ah bah 15 milliards de subventions, excusez-moi.
L'activité TGV de SNCF Voyageurs n'est pas subventionnée, tout comme celle de Trenitalia et tout comme celle de la Renfe. Ce qui va être subventionné, c'est la partie des trains du quotidien, donc c'est les trains transiliens, les trains TER.
Et ça, c'est la région, ça.
N'est pas subventionné, je pense que c'est une contre-vérité de dire ça. Donc ce n'est pas un service public, on peut vouloir que ça le soit, mais aujourd'hui, l'État ne subventionne pas le prix des billets TGV.
Et pour ce qui est, parce qu'on parlait tout à l'heure, il y a eu des hausses quand même pour les TER, ça c'est les régions, hein, c'est ça.
Oui, là pour le coup, c'est les régions qui décident. Mais quand même, pour revenir sur le sujet du TGV, parce que c'est ça qui inquiète les gens
à l'approche
de l'été.
Oui, à l'approche de l'été, vous avez raison. Ouais.
Voilà. Le problème qu'il y a, je pense, c'est que alors il y a déjà une mécompréhension et des avis négatifs, comme on l'a vu sur le fameux yield management, qui fait qu'il y a une variation dynamique des prix. L'un d'entre vous disait il faut que les riches payent davantage. Ben, c'est ce qui se passe en fait avec les principes du yield management, c'est-à-dire que avec ces principes-là, que la SNCF, comme ses concurrents adaptent et tout le monde adapte dans le monde du voyage, eh ben on fait payer plus cher ceux qui peuvent payer plus cher. Effectivement, les gens qui sont comme vous et moi, qui sont des actifs, qui ont un revenu et qui travaillent toute la semaine et qui peut prendre le TGV que le vendredi soir ou le samedi matin, eh ben ceux-là, et c'est vrai, ils payent plus cher. Nous payons plus cher que les gens inactifs. Qu'ont plus de liberté pour choisir leur horaire.
Alors Noémie, parmi ceux qui travaillent, parmi les actifs aussi, il y a un certain nombre,
évidemment.
Et la majorité d'entre eux font partie de la classe moyenne qui n'a pas forcément des revenus si importants et suffisants pour pouvoir se permettre de se payer les billets TGV.
Mais je ne sais pas si vous allez dans les TGV en ce moment.
Si, je prends tous les jours.
D'accord, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'ils sont pleins?
Ouais.
Ils sont pleins.
Ouais, ouais.
Ils sont pleins. Donc, je veux dire, si le problème était que les gens peuvent plus prendre le train, je veux dire, les trains seraient vides. Le problème, ils sont pleins.
Mais est-ce que les gens...
Par contre, il y a un autre problème. C'est qu'il y a peut-être pas assez de trains. Il y a peut-être pas assez de TGV.
Ouais.
Et là, pour le coup, c'est clair. Et pourquoi il n'y a pas assez de TGV et pourquoi quand il y a des TGV et qu'il reste des places, ils sont chers? Il n'y a pas assez de rames TGV parce que l'État, certes, la SNCF a fait des bénéfices, mais ensuite, l'actionnaire, il fait quoi? Le problème de l'actionnaire de la SNCF, c'est que c'est un actionnaire prédateur. Donc c'est l'État, c'est pas à 50%, c'est à 100% l'État. Et l'État, il aspire les bénéfices et il exige un maximum de dividendes. Et du coup, la SNCF, moins elle peut garder son argent, moins elle peut s'acheter de rames supplémentaires. Et puis à la fin, il n'y a plus assez de
Donc place. C'est pas sur la SNCF qu'il faut taper, mais sur son actionnaire principal, c'est-à-dire l'État.
Oui, je pense.
Merci Arnaud Aimé d'avoir été avec nous, spécialiste transport chez SIA Partners, très court.
Mais si les trains sont pleins, c'est aussi parce que les gens n'ont pas toujours le choix. C'est-à-dire que c'est pas uniquement pour partir en vacances. Le train, il y a de plus en plus de déplacements professionnels et il y a aussi des motifs privés. Gaëlle nous parlait tout à l'heure d'aller en Bretagne toutes les semaines pour aider sa mère qui est âgée. C'est pas uniquement un loisir.
Il y a aussi une situation que de passage.
C'est une mission de service public que l'État ne considère plus comme un service public.
Ludovic est avec nous, on va terminer avec Ludovic qui nous appelle au 32-16. Bonjour Ludovic.
Bonjour à tous.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi. Vous nous appelez d'où Ludovic?
De Seine-et-Marne.
Vous travaillez à la SNCF?
Exactement.
Vous faites quoi?
Je suis chef de poste à SNCF Réseau.
Ok, est-ce que vous comprenez la colère d'un certain nombre d'usagers, de clients de la SNCF par rapport au prix pratiqué sur les billets?
Alors, en tant qu'usager, je dirais oui. Mais en tant qu'agent SNCF et en voyant l'intérieur en fait, je dirais dans un sens ça paraît logique. Je vous explique.
Ouais.
Là, à l'approche des Jeux Olympiques, pour SNCF Réseau, donc je précise, SNCF a été divisé en plusieurs unités.
Oui.
SNCF Réseau Voyageurs. Là, ce qui augmente, c'est SNCF Voyageurs, pas Réseau.
Ouais.
Or, SNCF, c'est eux qui font les bénéfices. Réseau, nous sommes déficitaires. Nous appartenons à l'État. C'est l'État qui nous demande d'entretenir les infrastructures.
Exactement.
On est déficitaires. Mais or, c'est le groupe SNCF qui doit mettre à l'équilibre. Donc forcément, nous, on nous demande, à l'heure actuelle, à cause des JO, de maintenir les infrastructures, de les changer, d'augmenter le cadencement aussi, accessoirement.
Et ça, c'est sur les voyageurs qui paient.
Et c'est sur les voyageurs que ça tombe. Donc c'est pas sur la SNCF qu'il faut taper, c'est au niveau politique.
C'est le gouvernement,
et
tout à fait.
Et accessoirement, le PDG de la SNCF est mis en place par le président de la République.
Absolument.
Exactement.
Donc là, on tape sur les agents. Moi, vous voyez, ça, j'écoute l'émission tous les jours. On tape à chaque fois sur les agents de la SNCF.
Parfois, vous l'admettrez, Ludovic, parfois à juste titre.
Parfois à juste titre, je suis d'accord. Je suis pas pour le principe de la grève, je vous le dis tout de suite. Pas pour le principe de la grève. Mais quand on voit ce que nous, on nous demande à l'heure actuelle à Réseau pour l'infrastructure Île-de-France et le cadencement qu'on va avoir pour l'été, c'est normal qu'on dépouille SNCF, TGV par exemple, pour avoir des conducteurs pour le cadencement Île-de-France pour cet été, il faut aller former sur les lignes. Il est pareil, nous on est bien obligés le réseau est très vieillissant. Moi je suis sur une ligne qui est très vieillissante où il y a du TER, du Transilien, du TGV. Et je peux vous garantir que tous les soirs, sans exception, il y a des travaux.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Ludovic, au 32-16. C'est très instructif. Franchement, on a eu des avis très, très parlants. Il y a eu beaucoup d'avis différents. On a entendu, elle est là, la colère, on le sait. Mais en tout cas, moi, ça me fait réfléchir sur certaines de mes opinions par rapport au prix des billets. Paul, on vous a posé la question. Exposons les prix des billets SNCF. Est-ce que c'est scandaleux? Bon, la colère, elle est là.
Oui, et puis la réponse est sans appel. vous répondez oui pour 91% d'entre vous.
Allez, dans un instant, la suite d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, décide de ne plus financer de nouveaux projets d'éoliennes. Faut-il arrêter avec les éoliennes en France? On vous pose la question. Vous nous appelez au 3216. C'est tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, de midi à 15h sur RMC, RMC Story, c'est le canal 23 de la TNT. Et tout de suite, on parle du coup d'arrêt du jour. La région Auvergne-Rhône-Alpes ne financera plus aucun projet d'éolienne. Paul, son président, le LR Laurent Wauquiez, explique ne plus vouloir donner d'argent à un contresens écologique.
Et à une pollution visuelle qui semble impossible à supporter pour les habitants de sa région. C'est en tout cas les deux arguments mis en avant par Laurent Wauquiez. Du point de vue écologique, on y revient. Le président de la région Rhône-Alpes considère l'éolien comme un non-sens, tu viens de le dire Rémi, et il le justifie. Je ne veux pas d'éolien dans une région comme la nôtre, qui est une région de montagne, avec un impact sur les paysages et la biodiversité, sans compter l'artificialisation des sols par les
cuves
en béton qu'elles induisent. Plus d'éolien donc, mais pas question de laisser tomber la transition énergétique pour autant. Notre ambition est de faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la première région européenne en matière d'énergie décarbonée afin de bénéficier d'une électricité pas trop chère et meilleure pour l'environnement. Mmh. Ça, c'est ce que dit Laurent Wauquiez. Et pour ça, le président de la région fait déjà depuis plusieurs années la promotion de l'hydrogène, mais a surtout annoncé un plan d'investissement massif dans le photovoltaïque. Ça, c'était au début du mois de mars.
Ça fait moins de bruit.
Un investissement de 12 millions d'euros pour produire assez d'électricité pour plus d'un million de personnes.
Faut-il arrêter avec l'éolien en France? Vous nous appelez au 3216. Juliette Briens.
Oui, moi j'applaudis Laurent Wauquiez, évidemment. Les éoliennes sont pour moi une ineptie écologique. Déjà, c'est gigantesque. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à côté d'une éolienne, mais c'est gigantesque.
Venant des Hauts-de-France, de toute façon, même si je ne voulais pas y aller, j'y serais.
C'est évidemment une aberration au niveau du paysage. On a déformé tant de paysages avec ces éoliennes, notamment des paysages marins et des littoraux. C'est mauvais pour la biodiversité. Ça flingue des petits oiseaux
à
longueur de temps. C'est une horreur. C'est en plus une énergie qui est intermittente. Parce que quand il n'y a pas de vent, quand ça souffle pas, ça tourne pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait backup avec des centrales électriques pour continuer à faire tourner les éoliennes à perte. C'est ridicule. Et puis évidemment, je veux dire, ça n'a aucun sens en termes de production d'électricité, tout simplement. Le seul avenir dans l'électricité décarbonée, puisqu'on veut l'énergie décarbonée. En France, on a une des énergies la plus décarbonée du monde. Pourquoi? Parce qu'on a 56 réacteurs nucléaires. Voilà, et qu'on est, on était en tout cas les meilleurs en termes de nucléaire. On a essayé de nous mettre un peu de bâton dans les roues, mais là, ça y est, le gouvernement a enfin compris que si on voulait l'énergie décarbonée et pas chère, il fallait se remettre à fond dans le nucléaire. Donc oui, il n'y a aucune raison valable pour moi à ce jour de continuer à investir des millions d'euros dans ces éoliennes, oui, tout à fait.
Laurent Dandrieux.
Oui, moi je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Juliette et d'accord avec l'expression employée par Laurent Wauquiez de contresens écologique. Et en plus, c'est un contresens extrêmement coûteux. Et en fait, comme la voiture électrique, les éoliennes sont le symbole de la prise en otage des enjeux écologiques par des affairistes cyniques qui ne songent qu'à s'en foutre plein les potes et par des industries qui profitent de cette urgence climatique pour s'enfourrer. Gagner énormément de pognon.
Ah oui.
Un rapport du député Julien Aubert a estimé que le coût des subventions totales accordées par l'État à la filière éolienne depuis 2000 était l'équivalent de ce que représente le coût de construction de la totalité du parc nucléaire français. C'est-à-dire à peu près 80 milliards d'euros. Ce qui est colossal pour un différentiel de productivité qui est abyssal, puisque le nucléaire fournit plus de 70% de notre électricité et les éoliennes, on doit être à peu près à 10%. Par ailleurs, il me semble qu'en 2023, on a annoncé que la France avait diminué sa production de CO2 beaucoup plus que ce qui était attendu. Pourquoi? Parce que il y a eu un redémarrage du parc nucléaire. Donc voilà, c'est la solution et c'est une solution qui est moins rentable pour les affairistes.
Loumir Lapraie, militante écologiste.
Tout à fait.
Est-ce qu'il faut en finir avec l'éolien?
Non, mais d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est 90% des Français qui sont, c'est près de 90% des Français qui sont pour l'éolienne depuis plus de 20 ans d'ailleurs, depuis qu'on a commencé à installer des éoliennes, les Français.
Comme on est à part sur dans l'Estel Midi, c'est rarement le cas dans ce
pays. Ouais, mais donc du coup, c'est bien qu'on parle à une bulle, mais c'est pour ça que c'est important de le dire, l'immense majorité des Français, peut-être pas que ceux qui nous écoutent, mais en tout cas l'immense majorité des Français sont pour. Là, ce qui est en train de se passer, c'est un peu le nez au milieu de la figure, c'est que Laurent Wauquiez, il prépare sa candidature à la présidentielle 2027, qu'il sait que ça agite bien bien la droite dure et l'extrême droite, les éoliennes, avec une espèce d'aile.
Donc pas 90% des Français, alors finalement, parce que la droite, ça représente plus que 10% des Français. Alors vous me dites 90% des Français sont contre, et après vous me dites, il va chercher de la clientèle en faisant ça, puisque ça agite la droite et l'extrême droite. Mais ça représente pas 10% des Français.
Donc,
il y a une contre.
Donc, je reprends. 90% des Français sont contre et la plupart des sont pour, pardon, et la plupart des lobbies qui luttent contre l'éolienne. Il y a une espèce d'alliance entre lobbies anti-éolien, des gens qui détiennent des châteaux et des néo-ruraux qui viennent s'installer dans la campagne et qui n'aiment pas les éoliennes, et l'extrême droite. C'est vraiment un marqueur d'extrême droite. C'est un non-sens écologique. Donc moi, ça me fait mourir de rire parce que Laurent Wauquiez, c'est quand même le mec qui, moi, c'est mon président de région, donc je le connais bien, je l'ai bien pratiqué, qui supprime toutes les subventions à toutes les assos écolos, par exemple France Nature Environnement était dans son viseur, qui a annoncé il y a quelques semaines tout fracas qu'il ne respecterait pas la loi sur les ZAN, les zones de zéro artificialisation nette. Donc quand il dit c'est pas bien les éoliennes parce que ça artificialise les sols, c'est à mourir de rire. Juste avant de rétropédaler et de dire ah oui non, en fait on va quand même être obligé de respecter la loi parce que sinon ça nous met un peu dans la panade. Donc en réalité moi je ne suis pas inquiète, je vois que la plupart de ce qu'il nous faut c'est un mix énergétique. Moi je suis écolo, je suis pas anti-nucléaire. Donc j'ai pas de sujet à le dire. J'ai pas de sujet à le dire. Par contre, c'est important de rappeler que le nucléaire ça n'est pas une énergie 100% souveraine, que il faut aller chercher la matière première qui nous permet de faire du nucléaire et que c'est dans des zones déstabilisées et que donc c'est important c'est d'avoir un mix qui nous permet de ne pas juste aussi, et je finirai là-dessus, de garder notre souveraineté par rapport au gaz russe, parce que souvent les gens qui sont anti-écolos sont aussi pro-gaz russe. Donc moi ça m'interroge un tout petit peu quand même en termes de cohérence idéologique.
De nombreux messages.
D'abord un petit chiffre sur l'adhésion des Français aux éoliennes. C'est un sondage qui date de 2021, le dernier en date d'Harris Interactive. 73% des Français ont une bonne image de l'énergie éolienne. Ce pourcentage augmente pour les gens qui vivent près des éoliennes. 80% ont une bonne image. Enfin, 71% des Français sont favorables au développement de l'éolien aujourd'hui.
En tout cas, on vous pose la question. Faut-il arrêter avec l'éolien en France? Vous nous appelez au 3216. Alain est avec nous. Bonjour Alain.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous nous appelez d'où Alain?
Je vous appelle de Lyon, dans le 9e.
Très bien. Vous êtes agent SNCF?
Voilà, justement, je suis SNCF sur ligne TGV, justement. Donc,
très bien.
On a discuté il n'y a pas longtemps.
Bon, parfait. Bon, ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'on traite régulièrement du sujet de la SNCF. On n'est pas toujours tendre, mais on voit que vous n'êtes pas rancunier, donc c'est bien, là. Mais là, on parle des éoliennes. Vous habitez, vous m'avez dit, dans la métropole de Lyon?
Oui.
C'est ça.
J'ai une maison de campagne en Aveyron, justement, vers Stellarac-le-Château.
Il y a des éoliennes?
Oui, il y a un projet d'éolienne il y a 4-5 ans.
Pour ou contre?
Je suis contre parce qu'il ne faut pas oublier que la France, on est quand même un pays de grand tourisme. On dit qu'on est le pays du monde, on a plus de visiteurs. Et mettre des éoliennes, c'est pas très écologique, justement. Je pense qu'il y a les lobbies de l'éolien. Mettre certaines éoliennes dans certains endroits, peut-être en mer ou en montagne, où il n'y a pas d'habitation. Mais pas loin des habitations, je pense que c'est plutôt compliqué, c'est bruyant. Et d'ailleurs, j'ai une cousine qui habite en Lozère, je la salue d'ailleurs, qui habite sur les monts Lozère, mais c'est Sachi-Dapché.
Elle s'appelle comment?
Son prénom et tout. Elle s'appelle Bernadette, excusez-moi.
Eh bien, on salue Bernadette.
Bernadette.
Et Alain, oublier votre prénom, Bernadette. Moi, je dis ça, je dis rien.
Et Bernadette, elle travaille. Donc, elle habite sur les monts Lozère, au-dessus de Mende.
Ouais.
Et elle a eu une éolienne, et elle est très honnête. Elle a eu une éolienne, il y a au moins 15 ans qu'ils ont eu une éolienne. Donc, bien sûr, quand un agriculteur, c'est normal, il touche une subvention du groupe, il n'y a pas de souci. Mais elle reconnaît que l'éolienne, par grand vent, elle entend un peu le bruit de l'éolienne. En sachant que ce sont des éoliennes, les éoliennes traditionnelles, elles n'étaient pas très grandes. Je ne connais pas la dimension, la hauteur. Les éoliennes de maintenant, c'est complètement différent. Donc les gens, il y a des gens des villes qui veulent des éoliennes, qui sont dans les... J'en fais partie, je suis un peu bobo, j'habite en ville et tout, mais les gens qui habitent dans les campagnes, qui font une maison, ils ont une mienne qui est pas trop loin de chez eux, bah, le jour de grand vent, quand ouais. le vent vient vers leur maison, bah, pour dormir, c'est compliqué, ils sont obligés de mettre des volets isolants, etc. Non, je pense que l'éolien, c'est pas tellement rentable, quoi.
Lumière, ça, on peut pas le nier. D'un point de vue de la pollution visuelle.
Et sonore.
Il y a quelques jours, il y a une première condamnation. C'est une première en France. Je pense que Paul, ça se passe du côté de Rouen, en Normandie. Oui. En Normandie. Des habitants qui ont obtenu gain de cause de la justice, qui ont fait condamner un groupe qui avait installé des éoliennes à proximité de leur domicile. Et le groupe a été condamné pour pollution sonore. Un collectif d'habitants, ils étaient une vingtaine, je crois. Ils ont touché quand même 633 000 euros. Pourquoi ? Parce que leur maison. Elle est dépréciée aujourd'hui, elle a perdu en moyenne 40% de sa valeur. La pollution sonore et visuelle des éoliennes, on peut pas la nier quand même.
Ah non, mais attendez, moi je ne nie pas que c'est pas anodin d'avoir une éolienne à côté de chez soi. Mais moi j'ai grandi à 3 km d'une centrale nucléaire avec 4 réacteurs qui accueillent 2 nouveaux réacteurs dans la centrale du Bugey, tout à fait, si vous nous écoutez. C'est pas anodin non plus de grandir à côté d'une centrale nucléaire qui... Par ailleurs, est inclus dans un parc industriel où on a 8 sites Céveso, dangerosité haute. Enfin, je veux dire, habiter à côté de centres industriels et à côté d'infrastructures, ça n'est pas anodin. Mais c'est la même chose que d'habiter à côté d'une ligne de haute tension. Donc en fait, je pense que, bien sûr, ça n'est pas anodin. Je ne dis pas le contraire. Je dis juste que, quelle est l'alternative ? Aujourd'hui, on a besoin urgemment de décarboner notre économie et nos infrastructures, parce que si on ne le fait pas, les conséquences qu'on aura collectivement à gérer, elles seront beaucoup plus graves. Mmh. Je vous rappelle quand même qu'il y a 2 ans, pendant l'été, il y a eu plus de 100 villages qui ont dû être réapprovisionnés en eau par citerne. C'est vers ce monde qu'on se dirige si jamais on ne prend pas urgemment la mesure du problème de la crise écologique.
Merci Alain d'avoir été avec nous. Alain qui nous appelait au 3216 depuis les alentours de Lyon. Des messages, Paul, et le résultat de notre consultation.
Oui, Philippe qui nous dit les éoliennes envahissent nos paysages, compromettant leur beauté originelle. Malgré l'objectif initial d'économie d'énergie, il est regrettable de constater que les factures ne diminuent pas. Elles connaissent plutôt une hausse notable. Et tu l'as dit, on vous a posé la question, faut-il arrêter avec les éoliennes en France? Et là aussi, votre avis est plutôt tranché, puisque vous répondez oui pour 69% d'entre vous.
Allez, dans un instant, on n'arrête pas le progrès avec Mélinda d'Avant Soulas. Vous pensiez avoir tout vu en matière de jeux vidéo. Vous savez que maintenant, ils sont devenus complètement dingues, super développés, notamment les mondes ouverts. Vous savez ce qu'on appelle les mondes ouverts, ce sont des jeux, vous avez des missions à remplir, etc. Mais vous pouvez très bien décider d'aller vous balader dans des paysages incroyables, dans des villes, dans des forêts, etc. Mais vous n'avez pas encore tout vu, parce que l'intelligence artificielle va vous ouvrir un véritable monde parallèle, pas qu'avec des paysages, aussi avec des gens. Vous allez pouvoir discuter avec n'importe qui, vous allez voir. C'est tout de suite dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story. Vous voulez fuir le monde? Eh bien, Mélinda, d'Avant Soulas, c'est la solution.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story. Et tout de suite, on n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Avec. Tu reconnais Mélinda?
Un petit Mario.
Un petit Mario Kart. Effectivement, c'est pas vraiment Mélinda le type de jeu qu'on va aborder aujourd'hui. Là, on va parler des jeux de plus en plus réalistes, de plus en plus beaux. Là, c'est un jeu d'arcade. Mais selon toi, le jeu vidéo du futur, c'est pas seulement ça. Ça va ressembler à quoi ?
Ça va être un jeu vidéo dans lequel vous aurez un vrai rôle, dans lequel vous aurez une implication vraiment sur l'histoire, sur l'évolution. Pas juste d'être le personnage qui va jouer, qui va suivre son petit personnage et le faire évoluer. Non, il va falloir que vous fassiez preuve d'humour, de sens du relationnel, mais avec des personnages qui jusqu'à présent, enfin, dont on se foutait complètement, soyons clairs, ceux qui étaient dans l'arrière-plan, ceux qu'on appelle les PNJ, les personnages non jouables. Mmh. Alors, l'IA, c'est évidemment ce qui est derrière tout ça. L'IA, on en parle depuis longtemps, ça sert à animer vos adversaires quand vous jouez à FIFA ou vos ennemis dans Call of Duty. Là, eh bien, il va falloir sympathiser avec cette IA, figurez-vous. C'est Ubisoft qui a créé Neo NPC. C'est un prototype pour le moment, c'est un prototype d'IA générative. Alors on connaît tous ChatGPT, c'est pas ça qui est derrière. C'est une IA conçue avec Nvidia, qui est beaucoup plus intelligente et qui est surtout capable d'improvisation. Parce que c'est ce qui va être au cœur de tout ça. Vous allez improviser avec ces personnages qui ont une vraie personnalité et qui vont vous parler. Alors, pour vous orienter dans votre mission, mais si vous avez envie de leur parler de la pluie et du beau temps, leur demander ce qu'ils ont eu comme vie familiale difficile avant ou pas, ils seront en mesure de vous répondre.
Parce je peux me retrouver face à un personnage, je lui dis raconte-moi ton histoire.
Exactement.
T'as fait des études ou pas?
Oui, en fait, ils auront été créés pour ça. On leur a donné une personnalité.
C'est fou.
Avec des qualités, des défauts. Et derrière, il n'y a aucune ligne de dialogue dans ce que j'ai vu, moi, ce que j'ai testé, qui est écrite. On leur donne juste une trame. Alors, la trame de la démo que j'ai faite chez Ubisoft, c'était un groupe de résistants qui veut attaquer une méga corporation et ils préparent des sabotages. Moi, je me retrouve face à un premier personnage et je dois essayer de l'amadouer pour que, bah, il m'embarque, en fait, dans son histoire. Et donc, en discutant avec lui, bah, je vais comprendre qu'il est pour la justice, pour défendre l'humanité, mais il est quand même pacifiste. Donc, si j'ai envie d'arriver et lui dire « on va tout faire péter
»,
là, il sera moyennement
il va t'envoyer bouler.
Il va m'envoyer bouler. Ouais. Et donc ça, c'est impressionnant parce que j'ai une discussion avec un personnage, ça peut être vous ou moi, on discute et on décide en fait de la façon dont on va aborder une histoire. Ça, c'est vraiment nouveau. Il n'y a plus rien qui est en fait prévisible et votre pote qui va jouer au même jeu, bah, il aura une approche en fait complètement différente.
Mais c'est pas du réseau, c'est pas des vrais gens avec qui on parle.
Non, pas du tout. C'est vraiment, c'est une IA. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, chez Ubisoft, il y a une équipe de R&D qui est composée de data scientists, alors de gens spécialisés de l'IA, mais aussi de gens qui sont habituellement dans la création d'un jeu vidéo, des experts de la narration. Alors, ils m'ont expliqué, c'est un peu plus de boulot pour eux parce qu'il faut vraiment que chaque personnage soit identifié et une personnalité. Mais ils m'ont dit, c'est des comédiens en impro. C'est-à-dire qu'on leur donne le sens du rôle et on les laisse derrière, on les laisse vivre leur vie. C'est comme des enfants, on les forme, on leur donne une personnalité, puis après, bah, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir.
Alors déjà, ceux qui adorent les jeux de ce type, les jeux vidéo, les jeux de mission, etc., avec les mondes ouverts, etc., ils plaçaient des heures, mais là, c'est interminable. Enfin.
Là, ça va être l'enfer. Alors, pour vous donner une idée de ce qui est potentiellement faisable là, première mission, donc Jamadou le personnage. Deuxième mission, là, on part vraiment en mission sabotage. Donc, on a un drone à surveiller, voir s'il il remplit bien sa mission. Moi, j'essayais de le perturber. Donc, je lui racontais n'importe quoi, je voulais qu'il me réponde.
Le personnage qui gérait le drone.
Le personnage qui supervisait le drone. D'accord. Et là, il se souvient quand même qu'on est en mission. Et donc, c'est lui qui me recentrait, qui me disait « Non, mais là, faut arrêter, on est sur une mission. » Et il se souvenait que dans la première partie, je lui avais raconté des choses. Donc, il me les ressortait. Parce que c'est une IA qui mémorise aussi toutes vos actions et tout ce que vous êtes en train de lui dire. Troisième démo, troisième partie de la démo, je me retrouve face à un autre personnage que je n'ai pas croisé. Et là, le personnage, je m'aperçois qu'il a une petite note sur sa table virtuelle, laissée par le premier personnage, où il explique qui je suis, ce que j'aime, ce que j'ai fait dans les deux missions précédentes. Et donc, toute la discussion de la troisième démo, en fait, va être faite en fonction de ce que j'ai fait dans les deux premières.
Ah oui.
Donc voilà.
Ça arrive quand ?
Alors ça va arriver peut-être dans les premiers jeux d'ici la fin de l'année. On parle de Stalker, qui est un jeu de tir qui devrait avoir des personnages comme ça. Mais il va falloir des consoles un peu plus puissantes, des PC un peu plus puissants. Donc j'attends la prochaine génération, mid-generation de consoles, fin d'année, début d'année prochaine pour avoir les nouveaux jeux.
Moi, ça me laisse un peu sceptique parce que les gens que je connais qui sont accros aux jeux vidéo, c'est pas tellement pour parler avec des gens qui jouent avec des. C'est plutôt pour tuer des personnages, mais bon.
Ouais, mais si tu peux discuter avec avant de le tuer.
Moi, je vais passer des heures et des heures, ça va être horrible.
Toi, t'es très gameuse ?
Ouais.
Merci beaucoup, Melinda. On se retrouve.
Retour d'Anthony lundi.
Prochainement, bon week-end de jeu parce que je sais que tu es passionné.
Oui.
Et que tu vas passer des heures encore ce week-end à jouer.
Ouais. Et à récupérer mes heures de sommeil aussi.
Bon, très bien. Allez, merci, Melinda. Ah. Tiens, qu'est-ce que c'est ? C'est pas un jeu vidéo.
Non, c'est le moment de vous inscrire pour ouvrir le coffre RMC si vous voulez tenter de gagner 50 000 euros grâce au coffre. C'est le moment de jouer en envoyant coffre au 7-32-16. Coffre au 7-32-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. L'un ou l'une d'entre vous sera avec nous en direct tout à l'heure pour ouvrir le coffre RMC et peut-être remporter la belle somme de 50 000 euros.
Allez, dans un instant, on va parler des JO. La cérémonie d'ouverture, c'est le 26 juillet. J'ai regardé ce matin, je vais pas compter, hein, j'ai trouvé quelque chose sur Internet qui me le disait directement. Nous sommes à 118 jours, jour pour jour, de la cérémonie d'ouverture du 26 juillet. Et il y a un doute. Il y a toujours un doute. Est-ce qu'on sera à la hauteur ? Ben pour 52% des Français, nous ne sommes pas prêts à accueillir les JO. Vous êtes d'accord ? Vous n'êtes pas d'accord ? Vous nous appelez au 32-16. C'est dans un instant dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.